franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Alain Jean.
Bonjour.
Retour d'abord sur l'affiche du second tour de la présidentielle.
A-t-on pris la mesure de ce qui s'est passé dimanche soir ? Trois jours après, le questionnement se poursuit dans la presse ce matin. La une de la Charente Libre, FN, du choc de 2002 à l'indifférence de 2017. Une candidate normale s'interroge également aujourd'hui en France, Le Parisien, qui rappelle les étapes de l'entreprise de dédiabolisation du Front National opérée par Marine Le Pen, avec deux photos à l'appui. 22 avril 2002, des milliers de personnes défilent pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Hier, une poignée de sympathisants de gauche seulement, place d'Italie à Paris. Banalisation, relativisme, tout se vaudrait-il désormais ? Pas pour tout le monde. Le quotidien L'Humanité, sur la même longueur d'onde que le numéro 1 du Parti communiste, appelle clairement à sa une au vote anti-Le Pen. Sans chèque en blanc à Macron, prend-il soin de préciser. Dans Le Parisien, l'essayiste Raphaël Glucksmann s'insurge contre, dit-il, l'absence de gravité qui prévaut alors que le FN est arrivé au second tour pour la deuxième fois de son histoire. Comme si c'était devenu normal, regrette-t-il. Ce n'est pas le Front National qui a changé, mais nous qui avons changé face à lui. On est devenu sans conscience, amorphe et apathique. Il poursuit dans une interview accordée aux Inrecuptibles. Le Nini ignore le danger de l'extrême droite et le tragique de l'époque, dénonce-t-il. On peut avoir des désaccords extrêmement profonds avec la politique qu'Emmanuel Macron entend mener, mais il y a une certitude, on sera avec lui dans la capacité de les exprimer dans le cadre d'une société ouverte et démocratique. On ne peut pas dire la même chose de Marine Le Pen et d'attaquer nommément la position ambiguë, dit-il, de Jean-Luc Mélenchon. Il prend un grand risque à ne pas savoir hiérarchiser entre le libéralisme de Macron et le fascisme, dit-il, de Marine Le Pen.
La posture du candidat de la France Insoumise encore questionnée ce matin.
Par les biais de ses sympathisants et militants, puisque ce sont sur eux que Jean-Luc Mélenchon se repose. Sur le site lesjours.fr, Aurore Gorius et Camille Polony donnent à voir et à entendre le chaos de conscience dans lequel ils sont tous plongés. Dans les blogs hébergés par Mediapart, vous pourrez lire les mêmes déchirements des uns et des autres. L'un clame « Votez Macron, impossible, votez Le Pen, impensable ». Il choisira donc l'abstention. Un autre, Olivier Thonneau, enseignant-chercheur, admet qu'il ira voter contre Marine Le Pen. Mais pour autant, il récuse les injonctions de ceux qu'il appelle les pompiers pyromanes, ceux qui l'exhortent aujourd'hui à voter Macron. Qu'en dit-il ? C'est le quinquennat de François Hollande qui a vu le FN s'enraciner. Un FN qui puise à deux sources, la haine de l'étranger bien sûr, mais aussi, dit-il, la haine qu'inspire votre modèle de société haï, celui de la finance et du libéralisme.
Les deux finalistes sont, eux, repartis en campagne.
Avec un petit peu de retard à l'allumage pour Emmanuel Macron, il s'en est défendu hier, affirmant que rien n'était gagné et montant au front contre son adversaire. Mais pas de chance, un petit peu à contre-temps en tout cas du cours qu'il a décidé hier de donner à sa campagne. La une de Paris Match qui arrive ce matin et qui célèbre le pari réussi du candidat. Reportage photo à la clé où l'on voit le clan Macron célébrer sans retenue la qualification pour le second tour. Et puis Libération enfonce aussi le clou avec son interpellation en une, dont seuls les plus de 40 ans saisiront la référence. Hey, Manu, tu redescends ?
Ouais, Manu, tu descends ? Et pourquoi faire ? Bah, je sais pas, moi, descends.
Et voilà, un sketch des Inconnus qui date de 1990. Hier, même François Hollande a demandé à Emmanuel Macron de redescendre en lui expliquant pourquoi faire. Verbatim des conseils présidentiels à son ancien ministre sous la plume de Laure Breton dans Libération. Le score d'Emmanuel Macron est un mélange de vote d'adhésion et de vote utile, explique-t-il à ceux ou à celui qui n'aurait pas compris. Il est le candidat qui doit battre Marine Le Pen, mais il faut qu'il accepte que ses voix ne seront pas à lui, a confié François Hollande aux journalistes. Enfin, lui, candidat, glisse-t-il au passage, aurait refusé de participer au débat télévisé en présence de la candidate du FN. Elle a été banalisée en tout. Comment dès lors s'étonner qu'elle soit au deuxième tour ? C'est le prix à payer de toutes ces acceptations, déplore-t-il. Dans Les Échos, Cécile Cornudet souligne en tout cas, en tout état de cause, la difficulté de ces débats piégés, dit-elle, par la candidate Front National elle-même. Résumer le second tour par un référendum pour ou contre l'Europe ? Surtout pas, quand on sait depuis 2005 comment se solde ces référendums. Imposer l'idée d'un clivage entre patriotes et nationalistes, comme l'a fait le candidat dimanche soir, pas très percutant. Patriote est une marque déposée par Marine Le Pen depuis longtemps. Bref, animer le débat de fond est compliqué pour Emmanuel Macron, conclut-elle, malgré tous les soutiens qui se bousculent en sa faveur. Et puis, un problème très concret posé par l'élimination des candidats socialistes et républicains cherche assesseur pour le second tour, dit Le Parisien. En effet, le PS et LR étaient jusque-là les principaux pourvoyeurs de ces indispensables hommes et femmes qui tiennent les bureaux de vote. Eh bien, des maires d'Île-de-France s'alarment et lancent un appel aux bonnes volontés. Sachez qu'en dernier recours, les présidents des bureaux de vote peuvent réquisitionner les électeurs pour venir aider à tenir ces bureaux. Et on ne peut pas se dérober à son devoir, sauf si on ne sait ni lire ni écrire.
On termine, Hélène, par un conseil d'évasion.
Oui, allez admirer, si vous êtes parisien ou en visite à Paris, l'exposition consacrée par le Centre Pompidou à Walker Evans. Lisez au moins le très bel article que Luc Desbénois consacre au photographe américain dans Télérama, cliché en noir et blanc des hommes et des femmes frappés par la Grande Dépression de 1929, cliché aussi d'une catastrophe écologique sans précédent dans les plaines du Middle West. John Steinbeck écrira Les raisins de la colère, la talentueuse Dorothy Lange nous sensibilisera avec ses propres photos à la misère qui frappe alors les fermiers américains. Walker Evans, lui, ne produira pas d'image aussi sentimentale, nous explique Luc Desbénois. Mais son détachement apparent n'est qu'une stratégie d'artiste pour mieux mettre en valeur ces familles de métayers. Ils n'apparaissent pas comme des êtres ballottés par le malheur, mais des personnes qui font face avec une dignité forçant le respect. Ils participent en toute liberté à la construction de l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Ils parlent avec les yeux, dira le photographe. Un siècle plus tard, ils continuent de défier le temps, tels des Rembrandt ou des Velázquez. Plongez-vous dans les yeux de l'Amérique avec Walker Evans à la une de Télérama cette semaine.
Merci à vous, Hélène Jouan, pour la revue de presse sur Inter.